Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va découvrir l'amour et l'appel pour le travail en faveur des autres, en faveur de l'émancipation des autres. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Hafsa Al-Badawi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, la Hafsa?
Ça va super bien, merci vous-même.
Plaisir de vous recevoir. Alors Hafsa, vous êtes Awareness Officer chez Handicap International au Luxembourg. Vous êtes une Marocaine et vous travaillez pour cet organisme. Racontez-moi l'histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à occuper ce poste au sein de cette organisation, de cette ONG internationale?
Alors, mon parcours est commencé il y a bien plus de 10 ans, mais loin du Luxembourg, du coup, c'est au Maroc. Je suis safiote d'origine et du coup, je faisais mes études en développement d'informatique après mon bac. Et en fait, je découvre le monde associatif grâce à mon oncle qui était impliqué du coup dans la vie politique et associative de la ville, qui fait quelques rencontres. Et grâce à ces rencontres, du coup, je m'implique dans le monde associatif et bien dans une commune rurale pas loin de Safi, où je faisais au début du volontariat ou du bénévolat en cachette de mes parents parce que je prenais le grand taxi pour aller me rendre dans une commune rurale.
Pour faire quoi pour y faire quoi exactement?
C'était pour aider les filles au début de faire des recherches sur Google parce qu'ils avaient des ordinateurs mais ils ne savaient pas trop s'en servir. Et en fait, parfois formater les ordinateurs, mais faire vraiment des choses basiques. Et après, enfin,
mais pardon,
3-4 fois, j'ai embarqué mes amis.
On va y aller petit à petit. Vous dites que c'est des choses basiques et pourtant ces jeunes filles ne savaient pas le faire.
Oui, parce qu'il y a longtemps, c'était tout le début, en fait, où on utilisait les ordinateurs. Et encore, en fait, dans les communes rurales, les filles, en fait, ils avaient l'association avait une subvention, du coup, et ils avaient tout le matériel, mais ils ne savaient pas trop s'en servir.
Ouais. Du coup, qui vous a parlé de cette commune? Qui vous a parlé de ces jeunes filles qui ne savaient pas utiliser ces ordinateurs qu'elles avaient?
Alors, c'était mon oncle qui m'a fait la rencontre d'une femme que, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est encore vivante ou pas, parce qu'à l'époque, elle était à la retraite. Et c'est une ancienne fonctionnaire qui a participé à la Marche Verte, un beau parcours en fait. Et elle était présidente de cette association féminine. En fait, c'est une association qui accueille les femmes de manière, enfin, femmes et jeunes filles. Et du coup, les jeunes filles surtout pour faire des recherches pendant la pause déjeuner, pour manger, se reposer. Et les femmes, en fait, qui venaient préparer, couscous, aller parfois en fait faire un peu de la couture, de la broderie. Et en fait, c'est elle qui m'avait parlé de ça et puis elle m'a donné envie en fait d'aller voir.
Mmh. Et alors, ces premières rencontres avec ces jeunes filles, qu'est-ce que ça a éveillé en vous?
Là, avec du recul, je pourrais pas dire ce que ça a fait en moi, mais au moins en fait, j'ai enfin trouvé du sens à ma journée, à ma semaine. En fait, j'étais heureuse et épanouie et en fait, à partir de ce moment, je me suis dit. Je ne veux pas être développeuse ou ingénieure en informatique. Je veux plutôt en fait, travailler dans le milieu humanitaire, le milieu social et en fait, donner du sens à mon travail.
Mmh. Mais les études d'abord, elles étaient loin de ce domaine-là.
Non, oui, tout à fait en fait. Et justement, suite à ça, du coup, j'ai fait un changement de parcours et du coup, je me suis orientée. Encore à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'offres de formation dans ce domaine comme aujourd'hui. Du coup, plutôt vers tout ce qui est développement territorial et en fait ingénierie de projets territoriaux. Et en fait, j'ai continué du coup mon implication associative où j'avais créé moi-même une association. Et en fait, j'ai continué comme ça jusqu'à l'obtention en fait de mon diplôme et intégré en fait AmiDesk au Maroc. Mais du coup, AmiDesk, il est connu en Rabat pour tout ce qui est apprentissage de langue. Mmh. Mais moi, j'étais surtout de l'autre côté. C'était sur un projet avec l'Office chirurgien des phosphates qui avait un objectif en fait de faire la promotion et l'accompagnement des coopératives et voilà, j'ai commencé mon parcours professionnel aussi avec eux.
Oui, absolument. Alors vos parents dans tout ça, vos parents ils rêvaient de quelle vie professionnelle pour vous?
Alors, je pense que je ne sais pas du tout. Enfin, elle rêvait tout sauf ça, bien sûr. Enfin, mes parents trouvaient toujours que tout le travail associatif et les bénévolats, en fait, c'est quelque chose qu'on fait, ou bien travailler avec une ONG, c'est quelque chose qu'on fait toujours à côté du travail et ça peut jamais être le travail. Moi-même, je suis même la seule dans toute ma famille qui travaille dans ce secteur et parfois j'ai du mal à expliquer ce que je fais. Et en fait, on n'arrive toujours pas à associer ce qu'ils font les ONG, qu'il y a des salariés, que ce sont des entités, enfin des organisations, toutes comme des qui fonctionnent comme des entreprises classiques, or que l'objectif, il est autre que générer des revenus.
Alors, donc tout ça, c'est, on va dire, les premières années. Puis un jour, vous êtes vraiment au cœur, on va dire, de du travail associatif avec Handicap International. Vous débarquez comment
Oui.
dans cette organisation?
Alors, enfin avant, du coup, j'ai travaillé 2 ans au Maroc et en fait, au bout d'un an et demi, j'ai découvert que j'ai pas assez de recul, enfin pas assez de recul, pas assez de formation professionnelle, en tout cas qui me permet d'avoir un, enfin tout simplement, en fait, je me sentais, je vais pas dire moins compétente, mais que j'ai encore des choses à apprendre, en fait, toujours à l'université. Du coup, j'arrête mes études, j'arrête, pardon, en fait, le travail au Maroc pour reprendre des études en France, un pays qui est connu pour la protection sociale, pour les services sociaux en Europe. Et en fait, une formation qui était une des formations, les meilleures formations, en fait, classées dans ce domaine-là à Reims. Et là, je reprends du coup un master que je fais en alternance pour travailler dans un établissement en fait semi-public aussi en France. Et je reprends du coup la vie professionnelle en France, mais du coup dans un secteur public. Et je vais pas trop tarder parce que je me dis c'est pas l'environnement qu'il me faut. J'ai vraiment besoin d'être dans un secteur, enfin, vraiment dans le milieu associatif.
Ouais.
Et je bascule vers un poste en fait au sein d'une fondation qui s'appelle Apprentis d'accueil. Et en fait, c'est le premier partenaire de l'État en France en fait, en tout ce qui est protection de l'enfance. Et je travaille beaucoup sur dans l'ingénierie du coup de projet pour les dispositifs d'insertion en fait des jeunes qui sont mis en emploi, mis en formation en région parisienne. Du coup, j'étais la coordinatrice régionale de tous ces dispositifs. Ça représente quand même 52 établissements en région parisienne. Et j'ai eu enfin, l'opportunité, la chance de travailler sur des projets pilotes, du coup, avant de les dupliquer dans d'autres régions en France. Et bah, j'ai continué à travailler avec eux jusqu'à ce que enfin, ma vie professionnelle, enfin, ma vie personnelle, et puis l'amour me guide vers le Luxembourg. Et c'est là où je débarque chez Handicap International, autant que chargée de projet.
Ok. Alors, j'ai envie aussi, donc ça c'est finalement, vous avez réussi à travailler et à faire de votre passion votre métier, mais en même temps, quand on travaille dans ce domaine-là, dans ce secteur, on est amené à rencontrer la fragilité humaine, la vulnérabilité humaine. C'est bien ça?
Oui et non, parce que moi-même, je n'ai jamais été en fait en contact direct avec les bénéficiaires. Moi, je suis plutôt, c'est mon back-office, la personne qui est là surtout pour assurer la continuité du financement, en fait, assurer en fait le bon déroulement des projets. Mais en même temps, oui, on est amené à travailler avec le pub, enfin les professionnels qui sont en contact avec ce public et à travers en fait ces professionnels, on peut ressentir parfois cette fragilité, mais comme en fait, comme elle m'a déjà dit une ancienne collègue, en fait, on n'est pas là pour sauver le monde, en fait, on est juste là pour accompagner les personnes, les orienter en fait dans leur malheur pour qu'ils puissent s'en sortir le mieux possible. C'est triste à le dire comme ça, mais au moins, en fait, on sait qu'on a fait notre part du chemin et parfois, en fait, l'impact, on peut pas le mesurer sur le champ, ça peut parfois prendre. Bah, il faut en fait un entretien, parfois ça peut être un mois, parfois en fait même après l'accompagnement des personnes, mais au moins en fait on donne du sens à ce qu'on fait et on essaie de faire de notre mieux en fait pour sauver bah, les personnes, sauver les personnes non en fait, accompagner les personnes en fait dans leur précarité pour qu'elles puissent s'en sortir.
Oui, oui. En fait, c'est ça, c'est... Vous êtes en quelque sorte protégée parce que vous n'êtes pas en contact direct avec les bénéficiaires.
Oui, on peut dire ça, mais je pense pas qu'on a besoin d'être protégé quand il s'agit des bénéficiaires. On va dire que c'est juste que
protégé émotionnellement, je dis bien en fait, protégé oui. émotionnellement par rapport à cette douleur humaine en fait.
En fait, parfois, je pense pas que, en fait, la douleur. Enfin, je pense pas que c'est vraiment. Je ne sais pas si on doit valoriser. Enfin, on va évaluer ça et dire que c'est une valeur humaine. Pour moi, c'est surtout. Parfois, les personnes elles-mêmes, elles se rendent pas compte, en fait, de leur situation. Enfin, de la gravité de leur situation. Je pense que parfois, les professionnels. Je vais prendre un titre exemplaire. Une demandeuse d'emploi éloignée, dans une situation précaire, était en fait parfois victime en fait de violences psychologiques, physiques. En fait, les personnes elles-mêmes parfois ils se rendent pas compte. Souvent ils sont dans le déni. Mmh. Il y a certains qui sont certaines personnes qui sont conscientes, mais d'autres non, pas forcément. Et du coup, enfin, notre travail, c'est aussi les accompagner. Enfin, c'est pour cela, en fait, on parle toujours de l'accompagnement individualisé et personnalisé. Enfin, ça dépend vraiment de la personne, mais je pense que enfin, chacun fait de son mieux et ce qui est bien, du coup. Et en fait, quand on travaille dans ce domaine, dans ce secteur, nos résultats dépendent beaucoup de la volonté des personnes qui sont en face de nous. Du coup, parfois on a des success stories qu'on peut partager et que les gens sont, enfin, on est fiers et les personnes sont fiers d'elles-mêmes, mais c'est pas toujours le cas et c'est OK.
Alors, de tout ce parcours professionnel. De tout ce parcours professionnel en fait sur dans ce domaine de l'accompagnement, dans ce domaine de l'aide aux autres, vous aimeriez ramener avec vous au Maroc quelle pratique?
Moi, je pense que on a toujours on a beaucoup de choses à apprendre aussi du Maroc, contrairement
à ce qu'on croit.
En tout cas, chez Handicap Inter. Pardon.
Contrairement à ce qu'on croirait.
Oui, en fait, par exemple, là, donc chargée de projet chez Handicap International au Luxembourg, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'opportunité d'organiser des événements. Et en fait, je fais appel à des entreprises marocaines, en fait, qui ont réussi l'inclusion des personnes handicapées au Maroc. Et du coup, pour inspirer des entreprises luxembourgeoises ici en Europe, parce qu'ici, on a là toute on va dire, le cadre législatif qui permet de le faire. Mais que parfois, en fait, on se retrouve confronté à des soit pratiques professionnelles, soit des comportements d'entreprise qui n'est pas forcément. Et en fait, au Maroc, ça se fait d'une manière très spontanée et parfois de la volonté des personnes et des entreprises. Je ne sais pas si c'est un rapport culturel ou religieux ou en fait, c'est tout parfois même, en fait, c'est une volonté de certaines entreprises. Mais en fait, je pense pas que c'est toujours. J'ai une casquette d'experte en fait dans mon métier, ça c'est sûr, parce que j'ai une dizaine d'années d'expérience. Mais en fait, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du terrain, contrairement à ce qu'on peut penser. Et on peut venir avec un petit peu de rigueur, un petit peu de d'expertise, mais qui n'a rien à voir avec l'emplacement géographique, surtout. En fait, lié à des compétences en fait, qu'on peut acquérir d'un travail à un autre. Et ça aurait pu être le cas si j'étais au Maroc.
Alors, vous êtes sur le point de rentrer au Maroc, c'est ça?
Aujourd'hui, je suis maman et je vous avoue que j'ai de plus en plus ce sentiment en fait, d'avoir cette envie en fait, de rentrer souvent au Maroc. Je n'ai jamais eu ça. Les dernières années, j'ai jamais eu cette envie en fait les dernières années, et aujourd'hui en fait oui, je me dis j'ai envie de rentrer au Maroc, j'ai envie de me sentir chez moi et d'être chez moi. C'est vrai que j'ai de la chance en fait de vivre dans un pays comme le Luxembourg où en fait on a enfin même à Luxembourgville en fait c'est une ville très cosmopolite.
L'appel du pays est plus grand avec la maternité?
Oui, on va dire ça comme ça. Enfin oui, mais pas que. J'ai toujours eu cette idée. Mais en fait, toujours, il y avait quelque chose en fait, qui me traînait dans ma projection. Mais aujourd'hui, c'est clair dans ma tête que j'ai envie de rentrer chez moi.
Oui, avec le petit aussi.
Avec le petit. Je prends juste à titre exemplaire. Je vis à Luxembourg. Du coup, là, on parle trois langues. Du coup, on parle trois langues à l'extérieur. À la maison, on parle une langue. Enfin, j'essaie de parler le maximum.
En arabe.
L'arabe. Du coup, quatre langues. Et je me dis, non, en fait, je ne suis pas prête à faire ça. Et en même temps, je sens que j'ai besoin de transmettre des valeurs culturelles à mon fils. J'ai pas besoin, en fait, de les transmettre. Enfin, le fait de vivre dans un cadre comme le Maroc,
ça se transmet naturellement, en fait. Oui.
Oui, exactement.
On ne fait pas d'effort pour transmettre ces valeurs parce que c'est le quotidien.
Exactement.
Ouais.
Et puis des choses qui ne s'expliquent pas et la bienveillance. Enfin, je ne veux pas dire que les personnes ici ne sont pas bienveillantes, mais si c'est très germanophone, ça n'a rien à voir avec le Maroc, avec la culture, avec les personnes.
C'est incroyable, mais très souvent, dans mes rencontres avec des Marocaines du monde, à travers ces interviews, la maternité a été un accélérateur de retour, en fait, au pays.
Oui, le permis, en fait, moi, sincèrement, j'ai pris un an après l'arrivée de mon fils. J'ai fait ce choix parce que, professionnellement, c'est pas forcément la bonne décision, mais en fait j'avais besoin de vivre pleinement en fait la maternité, même si j'arrête pas un an c'est que le début, mais au moins en fait de me permettre de connaître mon fils, d'apprendre à vivre avec ma nouvelle casquette de maman. Et en fait, j'ai fait le choix de passer beaucoup de temps au Maroc, quasiment un an au Maroc. Et en fait, je vois le Maroc, en fait, je me suis jamais sentie aussi bien que pendant cette période d'être entourée des proches, de la famille, des amis, le soleil, la bienveillance, les journées allongées, le coucher de soleil. Enfin, vraiment, et je pense que quand on naît et grandit dans un pays, dans un endroit, dans un territoire, on ne se rend pas compte de la chance de la chance qu'on a jusqu'à ce qu'on part loin, en fait.
C'est ça.
Comme on dit, hein. Les Français disent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et en fait, le fait de partir du Maroc, j'ai cru que ça allait être mieux, meilleur. Enfin, j'avais vraiment des attentes. J'avais mis, on va dire, la barre très, très très haut, et en fait j'ai été confrontée à la même réalité. C'est juste les caractéristiques géographiques qui changent, et aujourd'hui en fait rien que me mettre dans un boire un café, enfin rien, ne pas boire un café, tout simplement respirer l'air fraîche, en fait face à la mer, ça n'a pas de prix pour moi, et j'ai pas envie que mon fils loupe ça, en fait. J'ai pas envie de rater les événements familiaux, j'ai pas envie de rater les rites chaque année parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a ça. Parce qu'avant tout, en fait, on est marocain, même s'il est né ici, il aura une part, en fait, dans sa construction, en fait, des valeurs qui vont être construites ici, mais il est avant tout marocain.
Marocain, ouais, c'est ça. En tout cas, Hafsa, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média, et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.